Tu crois qu'on peut tomber amoureux deux fois de la même émission ?
Avec toi, Mimi, je tombe amoureux à chaque fois.
Le week-end, c'est ce moment assez fabuleux où on prend le temps de regarder le fond des placards, de trier, de ressortir des vieilles boîtes. Ce dimanche, je suis justement retombée sur une vieille cassette audio, une de celles qu'on enregistrait un peu sur mesure, en appuyant sur REC pile au bon moment pour ne pas couper le début de la chanson. Vous connaissez certainement nos compiles, on appelait ça. Alors, sur ces cassettes, il y a des titres écrits à la main, au stylo bille, avec des petites bavures d'encre et des fautes qu'on n'a pas osé corriger. Ça n'aurait pas fait propre. Ces cassettes étaient très précieuses, elles étaient nos autoportraits, en se disant que ça nous ressemblait forcément intimement si on s'en tenait à quelques morceaux bien choisis. Un portrait sous forme d'objet, dur, palpable et pourtant fragile. Et puis comme tous les portraits, ça vieillit, d'autres musiques sont arrivées, d'autres couleurs sonores, d'autres artistes, des chansons qui nous ressemblaient mieux que les précédentes, ou du moins c'est ce qu'on a voulu croire. Peut-être qu'on a grandi un peu comme ça, en changeant de bande-son à chaque étape de vie, à chaque nouveau personnage que l'on aimerait incarner. Puisque les artistes nous aident à fabriquer des personnages pour se protéger du monde, j'en suis convaincue. Et puis parfois ces artistes, qu'on suit depuis longtemps, eux aussi enlèvent leur costume, ils cessent de jouer, eux aussi. Ils reviennent à quelque chose de plus nu, plus vrai, plus fragile, et ça nous fait un drôle d'effet. On les regarde se retrouver et on se demande si nous aussi, on n'aurait pas un peu grandi. Si se réinventer, c'est pas seulement oser redevenir soi. Vendredi sur mer fait partie de cela. Elle a traversé les rôles, les images, les villes. Aujourd'hui, elle revient dans ses montagnes suisses, celles de son enfance. Elle y retrouve les paysages, les visages, les débuts. Et c'est peut-être là justement qu'on commence à comprendre qui elle est vraiment. Elle sera sur la scène du 6x4 ce vendredi 17 octobre. J'ai voulu en parler avec elle puisqu'en écoutant son dernier album Malabar Princesse, je me suis posé une question à laquelle je ne pouvais pas répondre seule. Entre les vagues et les montagnes, où en est Vendredi sur mer ? Voilà, vous l'avez compris, c'est notre entretien du jour. Et puis après cette parenthèse musicale, on changera de décor mais pas d'horizon, avec un autre voyage, cette fois du côté de nos assiettes. Le festival alimentaire débute aujourd'hui dans le département, au programme des projections, des débats, des rencontres, pour réfléchir à une question essentielle, comment nourrir le monde autrement, plus justement, plus durablement. Et pour répondre à cette question, on aura le plaisir d'échanger avec Mickaël Lepage de l'association Les Trois Mondes qui porte le festival en Mayenne. Et puis en fin d'émission, on retrouvera Donatien. Donatien, vous le connaissez, c'est notre chroniqueur hebdomadaire, celui qui se réinvente chaque semaine, sans jamais vraiment changer d'ailleurs. Un jour poète, un autre philosophe de comptoir, pas celui qui agace, mais celui qui surprend. Chaque semaine, ce rendez-vous vous plaît, c'est le rencard avec nos petits décalages du quotidien. Nous sommes mardi 14 octobre, bienvenue à la maison, celle de l'autre radio, bienvenue dans la JT du local. Je suis Margot, vous êtes ici chez vous. Attendez voir, vous prendrez bien quelque chose. Installez-vous, laissez-vous surprendre par l'entretien du jour.
Vous écoutez la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Vous savez, il y a des gens qui changent de costume comme d'autres changent de maison. Pour d'autres saisons, on se demande, est-ce qu'on est toujours la même personne quand on déménage, quand on s'éloigne, quand on revient ? Est-ce qu'on se transforme ou est-ce qu'on se retrouve ? Vendredi sur mer a été une Vénus, elle s'est rêvée algue. Et la voilà qui dit aujourd'hui, c'est moi, dans ce nouvel album, Malabar Princesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire être soi quand on écrit des chansons ? Est-ce que c'est se raconter ? Est-ce que c'est inventer un rôle pour mieux se protéger ? Est-ce que c'est revenir là où tout a commencé, dans les montagnes, et dire « je n'ai jamais vraiment quitté cet endroit ». Entre les vagues et les montagnes, où en est Vendredi sur mer ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Charline Mignot, alias Vendredi sur mer. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, on vous retrouvera à Laval sur la scène du 6x4 ce vendredi 17 octobre. Mais avant, pour apprendre à mieux se connaître, j'ai envie de vous demander d'où vient ce pseudonyme si évocateur Vendredi sur mer ? Qu'est-ce qu'il portait au départ et qu'est-ce qu'il raconte encore de vous aujourd'hui, peut-être ?
Alors, c'est un nom que j'ai choisi un peu par hasard. J'avais envie de quelque chose qui soit comme un personnage, comme vous avez pu le dire au début, quelque chose qui raconte autre chose que ma propre personne, on va dire. et j'ai juste assemblé des mots qui me paraissaient être jolis et comme si c'était la première histoire finalement avant les chansons. Donc voilà, j'ai créé Vendredi sur mer comme ça, un peu par hasard.
Alors vos débuts étaient très marqués par le parler, chanter, puis est venue une voix un peu plus chantée dans Métamorphose. Dans Malabar Princesse, vous semblez trouver un peu un équilibre. Comment est-ce que vous définiriez votre musique aujourd'hui ?
Je dirais que à chaque fois, en tout cas, je fais ce que j'ai envie de faire à chaque album, donc c'est toujours très différent. J'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie d'ennuyer les gens non plus à refaire les mêmes choses. Au début, je parlais beaucoup parce que je me prétendais pas forcément chanteuse, j'avais pas forcément décidé de faire une carrière dans la musique, donc j'étais peut-être un peu plus timide. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris peut-être plus confiance et j'ai aimé commencer à chanter un peu plus. Et puis voilà, et de fil en aiguille, les influences musicales, les références, les envies changent, et donc j'ai commencé à chanter de plus en plus.
Quand on écoute vos chansons, on entre dans un monde très particulier entre la parole, la poésie, la pop. Si vous deviez inviter quelqu'un qui ne vous connaît pas à pousser justement la porte de cet univers, par quelle chanson vous aimeriez qu'il commence ?
C'est compliqué parce que quand on fait des concerts, par exemple, je me dis toujours avec mes musiciens qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a autant des références techno que des références très variétés françaises, des références plus Vladimir Kosma. Donc honnêtement, je sais pas trop, ça dépend. Je dirais que j'en ai aucune idée. Je pense que ça dépend vraiment si la personne a envie de quelque chose de plus intense, plus brut, plus noir, profond. J'irais vers Métamorphose, le deuxième album. S'il a envie de quelque chose de plus rock, pop, un peu plus variété, le troisième. Et s'il a envie de quelque chose de plus 70s, disons, plus romance, romancée, etc. J'irai vers le premier album, Promisez-moi. Donc ça dépend vraiment.
Vous avez écrit vos trois albums comme un peu trois incarnations. Vous allez me dire si c'est juste une Vénus dans Promisez-moi, une algue dans Métamorphose. Et aujourd'hui, vous semblez être plus vous-même. En tout cas, c'est ce que vous dites en interview. Qu'est-ce qui a rendu possible ce passage, peut-être du personnage à l'intime ?
Je pense que, en tout cas, les deux, la première version de Vendredi sur mer, effectivement, c'était plus une Vénus, c'était très rose, très édulcoré. Et donc, sur le deuxième album, j'avais envie, après beaucoup, beaucoup de concerts aussi, d'avoir quelque chose de plus brut sur scène. C'est parti de là. Et donc, c'est vrai qu'il y a un gap immense entre le premier et le deuxième album, même sur effectivement le personnage, entre guillemets, enfin, comment j'incarne ces deux albums, parce que j'avais envie d'aller complètement ailleurs. Et puis là, sur ce troisième album, ça part aussi de ce que j'ai envie de raconter sur l'album. Cet album, il parle de mes montagnes, de ma famille, de mes racines, d'où je viens. Et donc, c'était très logique d'être juste très simple. J'avais pas du tout envie d'être un personnage particulièrement, parce que c'est pas ça que je racontais dans cet album. Donc c'est un peu lié à ce que je raconte. Ça se développe, en tout cas l'image se développe une fois que la musique est là, quoi.
Justement, vous venez de le dire, Malabar Princesse vous ramène dans vos montagnes suisses. Qu'est-ce qui vous manquait ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de renouer avec vos origines ? En tout cas, d'en parler dans un album.
Ça s'est fait assez naturellement. J'avais beaucoup de mal à commencer à écrire ce troisième album. Donc, je suis partie 2 mois à Montréal. Et puis, je me suis dit, allez, Charline, ça fait quand même un an que t'es un peu bloquée, t'écris des chansons mais t'es pas sûre, il y en a plein que j'avais mises de côté et tout ça. Et donc je suis partie à Montréal et en me disant, reviens au moins avec 10 chansons, même si elles sont pas terminées, 10 chansons que t'as commencé et sur lesquelles tu te projettes. Et finalement je suis revenue avec une seule chanson et c'était Malabar Princesse, et c'est celle qui justement racontait Mes montagnes et l'envie d'y retourner. Et donc c'est parti de là et je me suis dit, effectivement, puisque mes chansons racontent ma vie, en fait, j'invente rien. C'est vraiment. Donc c'est pour ça que c'est aussi souvent très différent. Et je me suis dit, si c'est ça que tu dois raconter, c'est parce que tu as besoin d'y être. Et donc. Voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis beaucoup dans mes petites montagnes et que j'avais besoin d'y retourner, en fait.
Quand un album se construit, j'imagine qu'un artiste écrit énormément de chansons et après vient le moment de la sélection. Est-ce que ça a été un moment difficile ou est-ce que ça a été plutôt une évidence pour vous ?
Ça reste quand même assez évident, le choix des chansons. On sait quand on... Après, il y a parfois des surprises et des chansons sur lesquelles qu'on a commencé, qu'on n'arrive pas à terminer. Puis un jour, il y a quelqu'un qui rentre dans la boucle et qui dit « Ah, mais si on voit la chanson de telle manière, si on rajoute une guitare ou qu'on la fait un peu aller vers quelque chose de plus pop ou... » Enfin, j'en sais rien. Ça peut transformer une chanson et donc elle renaît finalement. Mais pour le coup, après, c'est vraiment assez logique, c'est assez facile de choisir, ça vient à nous, quoi. Donc, il y en a qu'on laisse de côté, puis qu'on... Enfin, j'en ai jamais repris une chanson qui traînait comme ça dans mon ordi pour le remettre sur un album, mais c'est possible, ça peut marcher.
La pochette de l'album vous montre rouge au milieu des montagnes, comme un petit chaperon rouge un peu dans l'immensité des montagnes suisses. Quelle histoire vous vouliez raconter à travers cette image-là et comment est-ce qu'on pense le visuel d'un album ? Je trouve ça toujours intéressant de se dire que ça va être la première impression de ce que ça va raconter avant même qu'on écoute les titres. Comment est-ce qu'on le pense, ce visuel-là ?
Je savais exactement où je vais faire cette photo, c'est ça. C'est un endroit que j'adore et donc je voulais faire cette photo à cet endroit précis. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai imaginé, je pense, comme une espèce de palette de couleurs primaires. J'avais envie qu'il y ait un contraste, même pas que des couleurs primaires d'ailleurs, mais qu'il y ait un contraste entre le vert, le rouge, disons des couleurs complémentaires. J'imaginais ça. Après, moi, je m'imaginais vraiment au loin, un petit point rouge, très loin. Mais finalement, c'est celle-là qui était la plus parlante. Et donc, voilà, mais il y a eu plein de tests. Et puis surtout, j'avais envie de passer 5 jours avec mes amis, Écoute Chérie, qui sont un duo de photographes, ma styliste, enfin, vraiment m'entourer de mes amis et de partir, de les amener chez moi pendant... une semaine, donc on a vraiment juste marché tous les jours, quoi, et on a fait ces photos au fil du temps, quoi, les photos de tout le vinyle, des covers, des singles et de la pochette, des photos de presse, etc. On a vraiment tout fait sur ces 7 jours, et voilà, je sais pas comment cette idée en tout cas m'est venue, mais j'avais visualisé dans ma tête le ciel bleu, les montagnes grises, l'herbe bien verte et puis cet impaire rouge. Je trouvais que ça matchait plutôt.
Alors, au moment où vous vous lancez dans l'écriture d'un album, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est comme se mettre au travail ou est-ce que c'est quelque chose qui surgit de manière plutôt viscérale et instinctive pour vous ?
Je dirais que si on veut rester dans un ordre de, comment dire, un temps assez, comment je peux dire, un temps, comment dire, qui est plus normal, c'est-à-dire, en général, c'est un album tous les 3 ans, donc faut qu'on se remette à la tâche après la tournée assez rapidement pour pouvoir... écrire cet album et le sortir, mais après c'est pas une science exacte, donc parfois ça prend plus de temps que d'autres, et je sais que j'ai parfois Il me suffit d'une... Là, ça a été Malabar Princesse, la chanson. Et il me suffit d'une chanson. Une fois que j'ai compris ce dont je voulais parler, je tire juste le fil. Et puis là, ça, c'est assez rapide. Mais c'est effectivement parfois compliqué de commencer, de débuter un album. Parce que faut trouver ce qu'on a envie de raconter aussi. On va pas raconter n'importe quoi juste parce que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de raconter... des trucs nuls juste parce qu'il faut que j'écrive une chanson quoi. Donc il faut tirer ce fil quand on l'a et puis voilà, donc, c'est pas une science exacte et parfois c'est un peu frustrant d'ailleurs, mais voilà.
Vous dites que vous écrivez seulement sur ce que vous vivez, est-ce que c'est difficile de transformer l'intime en chanson qui parle aussi aux autres, ou finalement est-ce que c'est une évidence?
En tout cas je me pose pas trop de questions, alors pour moi c'est plutôt facile, enfin si c'est quelque chose qui m'anime vraiment et dont j'ai besoin de parler, que j'ai besoin d'écrire, c'est assez facile. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps, sur les premiers concerts que je faisais il y a presque 10 ans, maintenant, je me disais, mais qui a envie d'écouter mes histoires? Et puis surtout, ça me faisait peur. J'avais l'impression de raconter ma vie privée à 200 personnes au début qui étaient dans la salle, et donc c'était très étrange. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que une fois que les chansons ne nous appartiennent plus, qu'elles sont sur les plateformes, c'est pas notre chanson, c'est la chanson de tout le monde en fait. Et puis chacun y entend sa propre histoire. C'est assez universel. Quand c'est des chansons d'amour, etc., c'est quand même assez universel. Donc ça finit par ne plus être totalement mon histoire, mais celle des autres.
Quand on écoute des artistes justement qui se racontent dans l'intime, souvent on y met nos propres petites failles, nos propres petites histoires à nous. Quels sont pour vous les artistes passés ou présents qui vous accompagnent vraiment dans ce que vous écoutez aujourd'hui et qui nourrissent peut-être aussi votre manière d'être au monde autant que votre musique?
Moi, j'ai écouté, j'ai eu la chance d'avoir un... Mon papa écoutait beaucoup, beaucoup de musique quand j'étais petite, donc j'ai écouté des tonnes de choses et très, très différentes. Je suis quand même attachée à tout ce qui m'a fait écouter, mais je dirais pas que ça influence totalement ma musique, parce que c'est quand même très, très lointain, souvent... Ça va des Pink Floyd à Barbara, passant par Renaud, Manu Chao. Enfin, vraiment, c'est hyper large. C'est assez, assez loin de ce que moi, je peux faire. Mais en tout cas, ça, c'est des artistes qui me suivent depuis que je suis petite et encore aujourd'hui, ça, c'est sûr.
Je le disais au début de cet entretien, on aura le plaisir de vous retrouver sur la scène du 6x4 le vendredi 17 octobre. Pour terminer, qu'est-ce qui change pour vous dans l'interprétation d'un morceau quand il passe du disque à la scène?
Beaucoup de choses. C'est une bonne question parce que c'est vrai que... je les écoute beaucoup, mes chansons, quand je les écris, quand on les compose et qu'on les termine. Mais une fois qu'elles sont terminées et qu'elles sont sorties, je les écoute jamais. Et je les écoute que quand je les chante moi-même en concert. Et donc, parfois, ça m'arrive en devant créer des setlists pour les concerts, donc l'ordre des chansons. Je fais une playlist sur les plateformes pour essayer de voir ce qui peut marcher ensemble, etc. Et puis, donc, j'écoute les chansons et je me dis « Oh, mais pourquoi je l'ai chantée comme ça ?» ou « Pourquoi je l'ai dite comme ça ?» Je la chante plus du tout comme ça et elle vit plus du tout comme ça. Donc, elle est hyper différente en live. Et c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir réinventer ses chansons, d'ajouter des choses... de pas avoir quelque chose de lisse et de conforme à ce qu'on peut trouver sur l'album, c'est pas intéressant, je trouve. J'ai envie, moi, quand je vais voir un concert, de vivre quelque chose que je vis pas en écoutant le disque. Et surtout, j'ai envie de découvrir des chansons sur lesquelles je suis peut-être pas forcément, j'ai pas forcément accroché, et où en live, je me les prends en pleine poire et que je les réécoute en rentrant chez moi et que je les entends d'une autre manière parce que je les vis en live. Et donc, c'est vraiment ça qui se passe en live. Et puis, Puis aussi, c'est une manière de ne pas s'ennuyer que de toujours recréer un peu des choses sur ses chansons, quoi.
Et en tout cas, merci Vendredi sur Mer d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Charline. On vous retrouvera ce vendredi 17 octobre au 6x4. D'ici là, il y a cet album, donc Malabar Princesse, qui est comme une invitation, j'ai envie de le redire, à voyager entre les vagues et les montagnes. On a hâte de vous découvrir sur scène. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
L'autre radio, eh ben c'est la vie qui passe en direct.
Eh bien oui, on vient d'entendre Vendredi sur Mer parler de retour à soi, de paysages retrouvés, d'un album devenu ancrage après tant de métamorphoses. Eh bien maintenant, j'ai envie d'en écouter avec vous un extrait. Voici Malabar Princesse.
Quel chemin les retrouver, ces montagnes et ces vallées que j'adorais. C'est comme si le vent les avait parsemées. Dans chaque endroit où je décide d'habiter, je ne sais plus par quel chemin me retrouver. J'ai le cœur en miettes, les idées épuisées. Tout est vite et moi j'ai fini par sombrer dans ce plan où tout à coup j'ai déraillé.
Qu'est-ce qu'on nourrit vraiment quand on mange? C'est la question que soulève cette année encore le Festival Alimentaire qui revient en Mayenne du 14 octobre au 30 novembre pour sa 11e édition dans le département. À travers des films documentaires, des rencontres et des débats dans une quinzaine de communes, ce festival nous invite à réfléchir à nos manières de produire, de consommer et aux liens qu'on tisse avec celles et ceux qui nourrissent le monde. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mickaël Lepage. Vous êtes agriculteur paysan à la ferme du Chêneau à Changer, mais aussi membre du comité de pilotage du festival et donc membre de l'association Les Trois Mondes. Déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Margot, bonjour à toutes et à tous.
Alors ensemble, on va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on nourrit vraiment quand on mange? Mais avant d'y répondre, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'est l'association Les Trois Mondes et comment elle s'est retrouvée à porter ce festival alimentaire en Mayenne?
Alors le festival, l'association Les Trois Mondes, donc c'est une association qui a fêté ses 40 ans l'année dernière et qui va porter des sujets plutôt sur l'éducation populaire, sur les luttes contre les discriminations sociales, raciales et tant d'autres, et donc qui, tout naturellement, en 2014, a pris ce sujet à bras-le-corps de à la fois de se soucier de la partie production alimentaire jusqu'à l'alimentation dans nos assiettes. Donc c'est par le biais de ciné-débats, de films, de conférences, d'autres manifestations, enfin voilà, que le festival, enfin l'association Les Trois Mondes s'est emparée de ce sujet-là. Et donc, avec donc le comité français pour les solidarités internationales qui porte nationalement ce festival, eh bien, il y a des liens qui sont faits depuis 2014, donc ça fait 11e année. Et donc, on essaie, nous, à notre échelle, de couvrir le département, donc d'aller non pas uniquement sur la ville Laval, mais d'aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour toucher un maximum de citoyens mayennais.
On a le sentiment d'être de plus en plus sensibilisé à ces questions de l'alimentation. Depuis plusieurs années, vous l'avez dit, vous êtes le relais de ce festival sur le département. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous semble encore essentiel dans cette démarche à transmettre dans l'époque dans laquelle on est peut-être?
Oui, alors ce qui est important, c'est de ne jamais relâcher la garde sur l'alimentation. On voit bien que ce soit les populations les plus vulnérables qui ne disposent pas d'une alimentation on va dire en quantité et en qualité quotidiennement, il faut ne pas tirer à boulet rouge sur tout ce qui est banque alimentaire, secours populaire, etc. Mais il est important de nourrir, on va dire, philosophiquement ou éthiquement tous ces gens-là pour savoir comment bien s'alimenter. Et puis pour ceux qui ont les moyens, c'est de toujours faire des efforts pour savoir que derrière une assiette, il se cache des paysages, il se cache des paysannes et des paysans. Il se cache des flux humains et des flux énergétiques. Et donc, c'est très important de toujours s'intéresser à ce que l'on mange. Et puis, au final, ce sont aussi des considérations de santé humaine, hein, puisqu'on a basculé depuis un ou deux ans. Il y a plus d'êtres humains sur la planète qui sont en surpoids, en surcharge pondérale, que de gens qui souffrent de la faim en quantité et en qualité. Donc, c'est important de toujours veiller à son alimentation, rien que pour des raisons de bien-être.
Et vous, Michaël, vous êtes justement producteur local, agriculteur paysan en Mayenne à la ferme du Chéneau à Changé. Quand on parle d'alimentation durable, comment est-ce que vous reliez votre travail du quotidien à ce qu'on montre justement à travers les films du festival?
Bien, nous, on essaie de s'attacher effectivement sur la ferme au fait que notre alimentation, enfin la production du troupeau sur la ferme soit le plus court possible, le plus anthropophone, hein, le plus local possible, pour nourrir un maximum de gens qui habitent auprès de la ferme. Donc ça, c'est très important pour nous de réduire ces circuits-là. Et puis derrière, nous, on s'est engagé à avoir plein de labels pour garantir une alimentation la plus saine possible. Donc au travers d'un exemple comme le mien, mais il y en a plein d'autres en Mayenne, hein, il y a plein de paysannes et paysans qui travaillent au quotidien sur tout type de production, hein, mais on essaie de raccourcir ces circuits, de travailler proprement. Et puis ça se transparaît au niveau du festival, puisqu'il y a toute une série de films qui proposent des thématiques sur le bien manger, le savoir s'approvisionner en local, et donc ça, c'est très très important.
On parle effectivement de l'importance de la production locale, de s'y intéresser, de s'y pencher, mais cette année encore, la programmation du festival s'appuie sur des films documentaires venus du monde entier. Alors qu'est-ce que ces images racontent de notre manière de produire et de consommer? Et est-ce qu'on peut peut-être mettre en avant un ou deux films qui vous semblent essentiels à ne pas manquer, vous, Michaël?
Oui, alors l'assiette qui compose, nos assiettes, hein, l'alimentation qui compose nos assiettes, elle émane aujourd'hui de flux géopolitiques, enfin de flux de la planète entière, hein, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, en passant par des sodas qui viennent d'Amérique du Nord. Donc effectivement, notre alimentation est très liée à la géopolitique, au climat, à la biodiversité, enfin. En fait, parler d'alimentation, parler d'agriculture, on va toucher ce que moi j'appelle à l'holisme, c'est-à-dire à toutes les considérations humaines, sociétales, climatiques, enjeux de biodiversité, Voilà, donc c'est très important d'évoquer ça. Et donc, on a plusieurs films qui abordent, notamment avec le film « À la vie, à la terre » qui se passe au Cameroun, comment, par les cueillettes de fruits et légumes, eh bien, on interagit dans un sens ou dans un autre, malheureusement, pour dégrader la vie des populations. Et tout le travail qui est fait par les agricultrices du Cameroun pour justement retenter de redonner un peu d'espoir à ces gens-là sur leur culture là-bas. Et alors, il y a d'autres films qui, moi, m'ont marqué. Il y a un film, je pense, qui est un peu un incontournable cette année. C'est celui qui s'appelle « Leur chant du cœur ». Donc, il va passer à plusieurs moments, dont demain soir, 15 octobre à Chaillan. On commence le festival avec ce film-là, qui touche, en fait, du chant jusqu'à l'assiette, à toutes les strates. Et on voit des témoignages de paysannes et paysans qui sont assez explicites sur la manière dont on peut concevoir aujourd'hui ce qu'on appelle l'agroécologie, d'un point de vue scientifique, tout en respectant la nature, les insectes, les animaux, le bocage, les végétaux, et puis qui va qui va respecter aussi nos assiettes finales, au final, et donc notre santé.
L'ensemble de la programmation pour l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute est disponible sur le site CRIDES, C-R-I-D-E-S. On pourra le rappeler à la fin de cette interview. Les projections, c'est important de le préciser, sont suivies de débats et de rencontres. On sait que ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est d'aller chercher un public nouveau aussi sur ces thématiques. Quels sont peut-être les principaux freins pour se sentir concerné, en tout cas se pencher individuellement sur notre impact personnel? Moi, je pense forcément à des discours qu'on entend assez communément sur le frein que peut représenter le coût et le temps dans le fait de bien se nourrir et d'y prêter attention. Qu'est-ce que vous diriez, Michael, par rapport à ça?
Effectivement, de prime abord, on a l'impression que de bien se nourrir, ça passe par une augmentation sous label, et le label est en général plus cher. Alors effectivement, il faut savoir que quand on travaille avec plein de labels comme nous on peut faire sur la ferme, on met un petit peu plus de force de travail, voilà, et moins de mécanique, moins d'intrants chimiques, etc. Donc, de prime abord, la première impression, c'est qu'effectivement, ces coûts-là sont divisés par des rendements un peu plus faibles, donc ils paraissent de prime abord plus importants. Sauf que lorsqu'on intègre pour une alimentation, on va dire, un peu plus chimique ou plus fossilisée, voilà, plus mécanique, on n'intègre pas les coûts cachés. Voilà, il y a des études qui ont été faites dernièrement qui nous montrent qu'il y a évidemment des coûts cachés de notre alimentation qui ont un coût énorme pour le citoyen au travers de ses factures d'impôts, au travers de la dépollution de l'eau, au travers la sécurité sociale, au travers des mesures de santé qu'ils peuvent avoir pour créer des nouveaux centres contre les maladies chroniques telles que Alzheimer, Parkinson et tant d'autres. Donc voilà, tous ces coûts-là de dépollution n'apparaissent pas directement pour le consommateur, et donc il serait bon de les réintégrer, et donc du coup ça remettrait à niveau, on va dire, le vrai coût d'alimentation. Donc voilà. Donc après, il y a des gestes tout simples qui sont sous tout le département de la Mayenne. Je connais plein de collègues qui font qui proposent des produits sous label en vente directe, et là du coup vous avez des produits labellisés en bio et autres à coût direct entre le producteur et le consommateur. Donc effectivement, on a un pouvoir d'achat qui se renrichit. Après, c'est aussi une question de pédagogie, de savoir où est-ce qu'on met les priorités. Est-ce que de manger, c'est ou pas une priorité? Alors pour certains, ça ne l'est plus du tout. Donc il faut toujours faire de la pédagogie là-dessus, en rappelant que au nom du principe d'Hippocrate, hein, que ton aliment soit ton médicament, plutôt que de soigner par de la médecine chimique, axé sur des produits alimentaires sains et de qualité. Ça demande peut-être un petit peu plus de temps de préparation en cuisine, mais ça redonne aussi vie à ces produits, et ça donne aussi toute la valeur, la saveur de produits qu'on va cueillir soi-même, qu'on va éplucher soi-même, cuisiner soi-même, et puis déguster en famille, entre amis, et puis renouer des liens sociaux qui se perdent tant aujourd'hui.
Michael, pour terminer, il est important de préciser que ce festival s'adresse aussi au jeune public.
Oui, le festival alimentaire, depuis plusieurs années, hein, depuis 4-5 ans, on touche un large public. Alors, ça va des tout petits enfants avec quelques séances qui sont que Karine Raymond de l'équipe des bénévoles fait avec beaucoup d'énergie et de talent. Et puis on également, on touche un public plutôt scolaire avec beaucoup d'écoles, de lycéens, lycée Réaumur-Buron, lycée Ambroise-Paré qui a une grosse activité, lycée Rousseau également. Enfin, on essaie de toucher un public large et varié, dont notamment les scolaires, puisque ce sont les futurs consommateurs. Et puis c'est à eux aussi qui peuvent influencer les parents, les grands-parents pour un meilleur équilibre de vie. C'est important de prendre des bonnes habitudes dès le début de son alimentation pour bien comprendre que ce qu'on a dans nos assiettes, ça détermine les paysages, ça détermine aussi le nombre de paysannes et de paysans, ça détermine aussi les transmissions qu'on va avoir de ferme. Et c'est en lien directement avec la conférence qu'on va proposer le 19 novembre, puisqu'on va s'adresser à un public de scolaires agricoles en formation agricole, donc qui, à terme, certains pourront devenir un paysanne et paysan. Et donc, on invite Pierre-Marie Aubert, qui est directeur de recherche à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable des relations internationales, et donc qui nous parlera justement de l'agroécologie et versus une formule qu'on voit un petit peu plus aujourd'hui, qui prend un peu plus d'ampleur, qui est l'agriculture, qu'il qualifie d'intensification durable, et qui aujourd'hui prend le pas et qui est assez dangereuse pour notre santé et pour le réchauffement du climatique.
Je rappelle que le festival s'étend du 14 octobre, donc aujourd'hui, jusqu'au 30 novembre. L'ensemble de la programmation, puisqu'on en a dit finalement que quelques mots, elle est très riche, très dense. On peut la retrouver donc sur le site du CRIDES. Pour ça, c'est très simple, il suffit de taper https://crides.info. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Margot.
Vous écoutez toujours l'Agité du local, c'est sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Avant de se quitter, un petit détour par le monde de Donatien, là où l'amour se cache parfois, là où on ne l'attend pas. Tiens, aujourd'hui il paraît que les vaches aiment aussi. Vous en doutez ? Eh bien vous avez tort. Écoutez plutôt.
Il y avait beaucoup d'orchestres qui l'ont joué. Entre autres, moi je ne me souviens pas de...
Les accordonistes, Alexander, tous ces mecs-là jouaient ça. Là.
Je ne me souviens pas de l'interprétation de Georges, je me souviens de l'interprétation...
C'est de lui, ça, c'est certain.
De Jean Vesse ou de Vessade. C'était la même époque que Sombreros et Mantilles.
À peu près.
Tu te souviens aussi de ça?
Ah oui, attends. Comment ça a commencé?
Je suis né pur et sans tache, au pays du fromage blanc. Mes parents avaient une vache, j'ai tété pendant longtemps. J'ai grandi à l'ombre de ses grosses tétines. J'ai grandi à l'ombre des pins et des pies. Refrain! J'aime le lait de vache, j'aime le lait frais, très frais, j'aime le lait de vache, j'aime le lait frais. Habitant la Mayenne, Donatien se doit de rendre hommage à ce département dont on dit qu'il compte plus de vaches que d'habitants. Cette petite chanson folklorique avec laquelle le père de Donatien remportait un vif succès jadis, à l'époque des repas de famille, mariages, baptêmes et communions, ferait une excellente publicité à l'entreprise Lactalis, et Donatien se déclare prêt à demander un cachet raisonnable à Monsieur Beignet si d'aventure ce grand patron bloqué sur un rond-point écoute l'autre radio. En attendant, c'est à ces sympathiques bovins consacrant leur journée à regarder passer les trains que Donatien dédie la chansonnette. Il s'agit aussi de redorer l'image très dévalorisée de ce paisible quadrupède, maltraité par la langue française et par ceux qui crient « mort aux vaches », qui bouffent de la vache enragée ou qui traitent très injustement de peau de vache les sympathiques pandeurs, les dévoués professeurs ou encore les magistrats intègres. Donatien veut rendre hommage à cette vache dont étaient amoureux tous les bœufs de la chanson écrite par Fred Perly, créée par George Milton, interprétée par Georgette Plana. Tous les bœufs, eh mais la vache, mais la vache, oh la vache, elle n'aimait aucun des bœufs. Amoureuse qu'elle était d'un taureau, qu'elle avait au marché des bestiaux aperçu à Bilbao. Qu'il était beau, dit la chanson, avec son anneau dans les naseaux, un joli petit museau, il était rond, il était gros, c'était un beau taureau costaud, et elle rêvait, la vache, nuit et jour, du taureau. Mais ce taureau était un peu volage et batifolait de pis en pis. Ce dont, auprès de sa laitière courtisane, il se défendit, arguant que l'autre choix était de courir à la mise à mort donnée par le toréador. Alors, la vache, qui avait un cœur d'or, céda aux empressements du taureau, et à la fin de la chanson, comme il se doit, ils eurent beaucoup de petits veaux.
C'est au pied d'une grande montagne, oui, c'est en Espagne, c'était ça. C'est le refrain dont je me souviens, toi aussi. Dire partout que les bœufs n'ont pas de goût, il y en avait beaucoup, enfin, etc. Et ça faisait... Un bel anneau dans les naseaux. Il n'y avait pas de terre de la culture à l'époque. C'était beau qu'il était gros, c'était un beau taureau costaud. Elle en rêvait, la vache, nuit et jour, du taureau. Non, non, du taureau, pas de son. Ah ben, le veau. Le veau, ça venait dans le troisième couplet, je crois. Ils avaient eu un veau, ils s'étaient mariés, parce que tous les bœufs étaient pas contents, ils s'étaient mariés, le taureau, ils avaient eu un veau.
Oh, c'était bien gentil, quoi.
Vous les avez très certainement reconnus. Il s'agit bien sûr de la voix de Brassens et Aznavour. Ils chantaient tous les bœufs, l'agité du local. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Vendredi sur Mer et aussi Sparkat. Merci à Mickaël Lepage et Donatien. Vous écoutez cette émission chaque jour. Sachez quand même que sa musique originale est signée Lénaïque Folzour. Et puis, si vous restez avec nous sur l'autre radio, puisqu'il le faut, vous écouterez à 19h à La Jeunesse Les Micros. Depuis 2019, cette aventure donne la parole à une jeunesse pleine de doutes, de désirs et d'idées. Aujourd'hui, il nous propose une émission au titre aussi drôle qu'intrigant. Je cherche le fil de mon nombril. Une plongée, bien sûr, dans leurs réflexions, leurs voix, leurs révoltes. Et à 21h, changement d'ambiance. C'est Frères de chaussures, oui. Et Frères s'écrit avec un accent circonflexe. Attention, cette émission est dédiée au rap français. Elle est animée par Fatshu qui nous embarque chaque semaine dans les textes, les sons et les histoires de la scène rap française. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons avec Kader Atou, chorégraphe pour Le Murmure des Songes, qui arrive ce week-end sur la scène du théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Ensemble, on verra ce qu'il se passe quand le hip-hop rencontre les rêves d'enfance. D'ici là, prenez un peu de hauteur comme Vendredi sur Mer au sommet de ces montagnes. Revenir là d'où l'on vient, c'est peut-être une bonne idée. En tout cas, s'il vous plaît, faites-le bien.
Alors, Mimi, on leur dit au revoir ?
Oh non, juste à demain.